9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Evelyne Thomas.
Bonjour Philippe Vandel, très en forme ce matin Philippe Vandel.
Présentatrice de télévision, merci beaucoup. On pense évidemment à l'émission C'est mon choix que vous avez animé pendant 5 ans, 99 à 2004 et que personne n'a oublié. Mais évidemment,
et 2015-2018 sur Chérie 25.
J'en parlerai, ne spoilez pas tout l'entretien. Votre carrière évidemment ne se résume pas à ça. Vous êtes désormais présente sur la TNT, sur Chérie 25, avec une émission qui s'appelle Snap. Il y a plusieurs déclinaisons. C'est chaque mardi à 21h. Là, ce mardi, ce soir, la déclinaison, c'est Les Femmes Tueuses. Le concept, en quelques mots, de Snapped.
Alors, Snapped, c'est une émission qui est importée des États-Unis, qui s'occupe particulièrement des femmes meurtrières. C'est vrai que les femmes meurtrières, c'est assez amusant de voir qu'en fait, dans la littérature en général sur les meurtres, sur la criminologie, on ne s'occupe absolument pas des crimes de femmes. C'est comme si les femmes étaient là pour enfanter, pour être jolies, pour être douces,
ah bon,
etc. Oui, oui.
Alors, je veux dire, la sensation que j'avais, je suis très étonné de ce que vous dites, je pensais qu'on en parlait moins, parce qu'effectivement, et tant mieux, il y en avait moins.
Non, alors, il y en a moins, effectivement, c'est 1 sur 10.
Ouais.
Et les chiffres aux États-Unis reflètent ce qui se passe en France, d'ailleurs, mm-hmm. même si nous, on est aux États-Unis. Il y a très peu de gens qui ont étudié la criminologie féminine. Pourtant, elle est là, elle existe, elle est très spécifique. Et ce sont d'ailleurs des scientifiques, des criminologues, femmes, qui s'en occupent. Jamais les hommes n'ont mis leur nez dans ces crimes de femmes. Oui, oui, c'est très particulier quand on s'y colle.
Vos premières amours journalistiques et vos premières fonctions journalistiques, c'était dans le Nord.
Oui, fait divers.
Exactement, et vous alliez au procès d'assises.
Oui, 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 j'étais encore étudiante en droit à l'époque, même si c'était du droit politique ouais. européen. Les assises m'ont toujours fascinée, j'ai eu cette opportunité, donc j'étais aux assises de Saint-Omer, tristement célèbre plus tard avec l'affaire Doutreau, et c'était des sessions de 15 jours, et un jour, le rédacteur en chef m'a dit, écoute, je te catapulte là-bas, et je suis arrivé aux assises de Saint-Omer, jeune journaliste qui en veut, évidemment, qui va révolutionner ouais. le monde de la presse. Et là, c'était terrible. Et il y avait des vieux journalistes, des vieux faits diversiers. Moi, je me suis pointée comme une gamine. Et c'est toute la comédia dell'arte, le drame humain qui se déroule sous vos ouais. yeux. C'est terrifiant.
En même temps, les vieux journalistes, d'abord, ils ont été jeunes. Est-ce que vous savez qui
oui.
a la carte de presse numéro 2 ?
Non, pas du tout.
Eh bien, c'était le plus vieux journaliste judiciaire, chroniqueur judiciaire, qui était Frédéric Potcher. Il avait la carte de presse numéro 2.
J'ai mal révisé mes fiches. Moi, c'est 57-446.
Voilà, moi, c'est pas des fiches, c'était dans ma tête. Alors, on va entendre la bande-annonce du numéro qui passe ce soir.
Bienvenue dans Snapped, les femmes tueuses, votre émission de faits divers sur Chérie 25. Elles sont insoupçonnables jusqu'à ce que la vérité éclate et que leur réelle nature soit dévoilée. Est-ce par passion, par vengeance, qu'un jour elles passent à l'acte et se mettent à tuer ? Tout de suite, je vous propose de découvrir l'histoire de l'une d'entre elles, celle de Cynthia Coates. La vie de Cynthia est compliquée. Elle doit effectivement s'occuper quotidiennement de son mari et de son meilleur ami, qui sont tous les deux handicapés. C'est donc un soulagement quand le jeune Corey s'installe chez Cynthia pour prendre soin des deux hommes. Mais un soir, le corps de Corey est retrouvé dans la maison et l'enquête va dévoiler une relation amoureuse entre Cynthia et le soignant. Alors que s'est-il passé ? Que cache Cynthia ? Pour le savoir, découvrons tout de suite cette sordide histoire.
Cette sordide histoire, vous dites ça avec un petit peu de gourmandise. Est-ce qu'il faut que les histoires soient sordides pour que ça fonctionne parfaitement ? Parce qu'on fait de la télé, qui est aussi un récit, mais qui est aussi un spectacle.
Un meurtre, par essence, c'est toujours sordide.
Mmh.
Donc c'est pas... Voilà, quand on met le nez dans ces histoires, elles sont effectivement dramatiques. Là, c'est un trio.
Ouais.
Une femme, deux handicapés, elle s'occupe, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, le loup dans la bergerie, et que s'est-il passé ? En tout cas, il y a des morts à la fin. Donc oui, c'est toujours sordide. Et en plus, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le meurtre des femmes, ça se passe souvent à huis clos.
Mmh.
Là, on sent bien le huis clos. Donc vous avez tous les ingrédients d'un drame, en fait. C'est absolument fascinant.
Alors, Snap, c'est une émission, vous l'avez dit, c'est un format américain qui
oui.
est construit sur la base d'enquêtes avec des interviews. Par exemple, ils interrogent après le meurtre, évidemment, les policiers, une amie de la famille. Cette amie s'appelle Candias.
Quand les enquêteurs m'ont posé la question, je leur ai dit que la relation entre Corey et Cynthia était instable. Il avait peur d'elle.
Candias précise que ça n'a pas toujours été le cas. Quand Corey a emménagé pour s'occuper de Louis, tout s'est très bien passé. Si bien qu'au bout de quelques mois, Cynthia et lui sont devenus amants.
Cynthia et Corey s'étaient rapprochés. Ils ont été amants pendant des années.
Elle se sentait seule. Et elle avait des sentiments pour lui.
Cory aimait l'attention qu'elle lui portait. Elle prenait soin de lui.
Mais d'après Candias, cette relation a fini par devenir une source d'angoisse pour Cory.
Est-ce que vous avez encore le souvenir de ce tournage? Parce qu'il faut raconter, les émissions, on ne les fait pas au jour le jour, elles passent ce soir. Vous l'avez enregistré quand?
Oh, il y a un petit bout de temps. Ouais. Il y a un petit bout de temps, on va dire.
Je vais raconter ceci parce que ça va faire le lien avec ce que vous disiez sur la particularité des meurtres de femmes. On est 2 semaines avant le meurtre et Cory a rompu avec Cynthia. Témoignage.
2 semaines avant d'être tuée, Cory a rompu avec Cynthia.
Cory ne le sentait pas. Il estimait que c'était un manque de respect. Il a déménagé.
Il estimait devoir mettre un terme à cette situation et a donc déménagé chez un ami.
Cynthia est devenue folle quand Cory l'a quittée. Elle lui envoyait des SMS, le menaçait, déchirait ses vêtements. Elle était irrationnelle.
D'après Candias, Cory a continué de s'occuper de Louis pendant quelques jours, croyant sincèrement que Cynthia finirait par se calmer. Mais au contraire, sa colère ne fait qu'empirer.
Est-ce que ça n'illustre pas, d'une certaine manière, ce que vous disiez sur les particularités de meurtres signés par des femmes, ou est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas, même si effectivement, je ne voudrais pas qu'on dise voilà, on est genré, les femmes sont des manipulatrices, dès qu'elles ont de la passion, de l'affect, elles deviennent toutes des meurtrières, non. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une particularité chez les meurtrières, oui. Il y a beaucoup d'affect, et on s'aperçoit aussi qu'elles ont un vécu, ce sont souvent des femmes issues de catégories socio-professionnelles moindres, qui ont des drames dans leur histoire de jeunesse. Ça fait partie aussi des rares études sur la criminologie féminine.
Et en l'occurrence, justement, Cynthia, je ne veux pas tout déflorer, mais Cynthia a une fille, et sa fille a un enfant mort-né. Et après, je ne vais pas dire ce qui se passe dans la tombe, mais c'est juste totalement terrifiant. Evelyne Thomas, vous restez avec nous, on parle de Snap, ça passe ce soir à 21h, on a encore plein de questions, Culture Média continue.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie d'Evelyne Thomas, Snap, c'est ce soir à 21h, c'est l'histoire d'un meurtre sordide, comme tous les meurtres, vous me l'avez bien dit, mais quand même temps vous le précisiez dans la bande-annonce, je me suis dit peut-être qu'il y a des meurtres qui ne sont pas sordides, pas
non.
Du tout. Ça se décline, Snap, il y a les couples tueurs, il y a les femmes tueuses, il y a vacances mortelles, il y a Snap, fratrie meurtrière. D'abord juste un mot, moi je ne parle pas très bien anglais, Snap ça veut dire quoi?
Brisé, fracassé. En fait, c'est l'espèce de... Vous savez, il y a quelque chose qui me fascine dans les faits divers, c'est le point de rupture. Quel est le moment où on passe à l'acte? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi vous ne passez pas à l'acte si vous êtes en bisbille avec votre voisin ou avec votre femme le matin? Bon, parce que tout d'un coup, au moment où vous êtes énervé, vous avez les ressorts suffisants pour vous dire non, stop.
Oui, mais quand même, il faut déjà être très très énervé, parce qu'avant d'être énervé et avant de tuer, il faut déjà être énervé
au
point de tuer.
Vous savez, la violence conjugale, c'est déjà ça. Hein. Ou la violence tout court. On voit dans une société qui est de plus en plus violente, les incivilités qu'il y a au volant, etc. Tout d'un coup, il y a de plus en plus de gens qui passent à l'acte. Ben là, c'est le point de rupture. Donc Snap, c'est ça, fracassé.
Snap existe depuis combien de saisons aux États-Unis et mené par vous en France?
C'est plus de 15 ans aux États-Unis. Là, ça va faire quasiment 4-5 ans chez nous. Mm-hmm. Je ne vois pas les années défiler parce que je pense toujours à après. Moi, je ne suis jamais dans le passé. Donc, ça marche très bien aux États-Unis. Et puis, ça marche bien sur notre chaîne puisqu'on est bien au-dessus des audiences de la chaîne. Ça me performe sur les ménagères. Donc, ça va, je suis contente.
L'émission, ça de retour à la rentrée?
Oui, bien sûr.
Bah pourquoi bien sûr? Il y a tellement de gens, quand je pose cette question au mois de juin, il y a tellement de gens qui disent je ne sais pas. Il y a même beaucoup de gens qui disent je pense que je vais lever le pied alors qu'ils ont appris 15 jours plus tôt que la chaîne n'avait plus besoin d'eux pour la rentrée.
Non, j'ai la chance d'avoir la confiance de mes patrons, Jean-Paul Baudecroux, Hervé Pavard et Guénaël Trolli, qui m'ont renouvelé justement un nouveau mandat d'un an. Là, c'est pas un quinquennat, mais ça va bientôt faire un quinquennat puisque ça fait 6 ans. Mais oui, ouais, ça va faire un septennat bientôt. Ça fait 6 ans que je travaille sur la chaîne. Maintenant.
Vous n'aimeriez pas tourner des histoires françaises?
Pas vraiment. Il y a déjà Crime qui a pris pas mal de place sur l'antenne. Et puis là, je trouve que ce format est intéressant. Vous savez, aux États-Unis, ce qu'ils ont de plus par rapport à nous, c'est qu'ils peuvent filmer les audiences. On l'a vu avec le procès Depp Heard. Ils peuvent filmer les audiences. Ils ont beaucoup plus d'accès à l'information avec les excès que ça peut donner. Mais ils ont toute une matière visuelle qui est exploitable, ce qu'on n'a pas en France. Donc c'est vraiment une richesse incroyable.
Et montrer les photographies des impétrants, ce qui est interdit en France. Il faut flouter tout le monde.
Oui, absolument.
Il y a quelques années, Evelyne Thomas, vous aviez juré de plus jamais refaire de télévision. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Oh, mais je dis ça tous les ans.
C'est vrai?
Non.
C'était dans Pure Média le 2 novembre 2015.
Oh mon Dieu. C'est vrai qu'à un moment, moi je suis quelqu'un qui a besoin de me projeter en avant. Je regarde jamais derrière, c'est peut-être ce qui me sauve d'ailleurs. Donc il y a des moments où je suis un peu à sec, je suis à sec d'idées, j'ai besoin d'être dans ma bulle, etc. Puis il y a des moments aussi où les diffuseurs ou les producteurs n'ont pas spécialement envie de moi. Vous devez connaître ça, Philippe, puisque vous avez une grande carrière.
Tout le monde est
descendant. Quand on a une longévité, effectivement, ça, souvent les montagnes russes. Donc il y a un moment quand on n'est plus en adéquation, quand les planètes sont plus alignées, vous vous dites, oh, j'en ai marre, je vais faire autre chose. Voilà. Et puis finalement, la télé ou le journalisme vous rattrape toujours. Et c'est ça qui fait, quand on a envie de dire des choses, montrer des choses, ça c'est passionnant.
Alors, vous dites, vous regardez pas le passé, mais quand même, il y avait un prime time samedi 11 juin sur TF1. C'était un samedi soir. 30 ans d'émissions cultes, TF1 revisite les années 90-2000. Et en bonne place, parmi ces émissions, il y avait NPA, il y avait 1000 choses. Il y avait C'est mon choix, présenté par vous. Je peux pas ne pas vous en parler. En quoi cette émission a changé votre vie ?
Elle a changé ma vie parce que d'abord au niveau du format, moi qui étais une journaliste très sérieuse, j'avais fait le JT, les soirées électorales, politiques, économiques, etc. Tout d'un coup, je m'étais attaquée à un format plus divertissant avec un concept qui faisait marcher le public, les invités et moi. C'était un trio. J'ai été formée, entre guillemets, par les Américains à l'époque d'Evelyne sur TF1 et je trouvais ça formidable. C'est vrai que j'en avais un peu ma claque du journalisme stricto sensu, lire son prompteur le soir pour raconter les histoires avec en plus... faut pas se mentir aussi, beaucoup de politiques qui passent des coups de fil pour dire « Ah non, faut pas traiter ça, faut pas traiter ça ». Je me sentais plus libre, donc je me suis dit « Autant aller faire du divertissement, ça va m'amuser et être en phase avec la société ». Le format de C'est mon choix, qui a été repris après par Delarue et Francisé, est un format totalement inédit qu'on a mis à l'antenne et qui en plus a réussi, et ça j'en suis pas peu fière quand même, 10 ans plus tard, à cartonner à nouveau sur Chérie 25 en 2015, et ça c'était pas gagné. Donc quand on est en phase avec la société, voilà, moi ça me plaît.
Je voudrais qu'on entende un son qui va parler à beaucoup de gens. Ça, c'était le son du générique. Et je raconte pour les plus jeunes, ce fut un succès énorme, totalement imprévisible. Vous êtes d'abord placé sur une petite case qui a monté. Et puis, il y a ce moment incroyable quand les députés à l'Assemblée nationale ont solennellement
demandé... Oh, vous n'allez pas
demandé,
me ressortir ça.
Évidemment. Vous vous souvenez de ce souvenir quand même, vous voulez
interdire
l'émission parce que c'était racoleur.
Mais je me souviens même qu'un député, une fois, parce qu'il y avait une grande grève à France 3, avait sorti ma feuille de paye parce qu'à l'époque j'étais journaliste.
J'avais oublié ça.
Oui, vous ne s'en souvenez pas. Et c'était très rigolo parce que j'étais la plus mal payée de France 3 à l'époque où je présentais le JT à Lille. Donc ça, je me souviens bien. Mais ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est que là, vous avez dit pour les plus jeunes. Je vais vous scotcher, vous qui bossez bien vos invités. On a repris, donc C'est mon choix, en 2015 sur Chérie 25. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, parce que moi j'aime bien travailler aussi pour les jeunes.
Bien sûr.
Et là, on a eu un nouveau succès, et il se trouve que quand on regarde les courbes d'audience de 2015, on a les jeunes, on a la ménagère. Donc il y a plein de minots de 20 ans qui ont l'âge de ma fille, qui connaissent C'est mon choix. Donc là, vous avez échoué. Ouais.
Et avec les mêmes thèmes.
Je veux dire
ce qui m'a frappé, parce que les thèmes de l'époque, on vous reprochait d'être racoleur. Mais quand on regarde les
maintenant,
thèmes de l'époque...
Maintenant, c'est culte.
Mais moi, j'ai même repris les thèmes dits racoleurs de l'époque, et maintenant, ça passerait tout de suite. Je déteste les blondes, je suis une emmerdeuse avec mon mari, j'aime les gros, j'ai changé de sexe, j'ai vu des milliers d'émissions là-dessus.
Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Quand on a commencé à faire beaucoup d'audience, on nous a accusé d'être racoleurs, alors que Mireille Dumas, à l'époque, faisait bien pire que nous. Déjà, à l'époque, on n'avait jamais fait les transsexuels, par exemple. C'était interdit par la chaîne, puisqu'on avait le CSA derrière nous, et qu'en plus, à 13h50, on avait les jeunes. Cette info pro, c'est...
Evelyne Thomas, vous êtes une sorte d'encyclopédie de la télévision. Vous avez commencé... Et j'ai vu cette recension, vous avez commencé votre carrière à la télé sur France 3 en 86. Vous êtes passé ensuite par TF1, par RTL9, par Direct8, par Teva, par Chérie 25, Énergie 12, Non Stop People. Comment jugez-vous l'évolution de la télé depuis presque 30 ans ?
Mon Dieu, mon brave monsieur, les choses ont changé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on s'approprie la télévision, on s'approprie les gens qui font de la télévision. La télévision a été désacralisée et est tombée d'un cran. Donc ça, c'est ce que je constate. Maintenant, je ne suis ni amère, je ne regrette rien du tout. Encore une fois, j'avance.
Merci beaucoup, Evelyne Thomas. Donc, je rappelle, Snap, c'est ce soir à 21h sur Chérie 25.
Coast.
Merci d'avoir été avec nous dans
Culture Média. Merci Philippe, c'est toujours un plaisir.
Pareil. Culture Média, ça continue après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet au moment où un journaliste polonais accuse TF1 d'être responsable de la mort d'un soldat ukrainien. Il a re-regardé le reportage mis en cause. Notre invitée, c'est l'actrice Marina Foïs. On parle de son film En roue libre, road movie à huis clos, mais en mouvement, vous allez comprendre. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire va nous parler de musique, Special Pride, et Héloïse Goy va nous présenter une série géniale, mais totalement impossible à pitcher, donc je le fais pas. Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1.